de la paix. Il est 7 heures. Le journal du 7 heures. Mel Emmanuel.
Merci de choisir Radio de la Paix. Bonjour à tous. Infrastructure routière, la voie de contournement d'Abidjan, Y4 et le quatrième pont étaient dans l'agenda de visite du Premier ministre hier mercredi. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. À moins de 2 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les acteurs du tourisme ont été réunis par leur ministère de tutelle en vue de discuter des meilleures prestations à offrir lors de la compétition. Dans l'actualité ouest-africaine, l'ex-président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a été inculpé pour son implication présumée dans les événements du 26 novembre 2023 dans le pays. Revenons en Côte d'Ivoire, nous aurons le parcours des titres des journaux ivoiriens parus aujourd'hui avec Jean-Mélène Bitti. Et c'est avec l'invité de la rédaction que va se refermer ce journal. Avec lui sont abordées les causes de la hausse du prix du courant et les possibilités pour juguler son impact sur les populations concernées. Il s'agit de Serge Parfait-Dioman, expert international en industrie pétrolière et énergie. Comme annoncé dans le sommaire, nous ouvrons ce journal avec la visite du Premier ministre des chantiers de la Y4 et du 4e pont ce mercredi 3 janvier 2024 afin de se rendre compte de l'état d'avancement de ces infrastructures routières à 9 jours de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Côte d'Ivoire. Jean-Mélène Bitti y était pour le compte de Radio de la Paix.
Le tronçon Yopougon-Plateau-Plateau Yopougon via le 4e pont sera ouvert à la circulation dès le début de la semaine prochaine, a fait savoir le Premier ministre.
La première visite, nous avions un point dur, c'était les 400 mètres qui séparaient le tronçon du premier pont de Yopougon et le tronçon qui nous permet d'arriver le deuxième pont de Yopougon. Ce tronçon, dès le début de la semaine prochaine, sera achevé et on pourra passer du deuxième pont de Yopougon au niveau de l'autoroute, rentrer dans Yopougon et reprendre le 4e pont pour aller directement au plateau. La circulation sera beaucoup plus aisée et nous ne pouvons que nous réjouir de cela. Pour nos frères et sœurs de Yopougon, de Sangon, pour aller au plateau, on ne sera plus obligé de prendre la grande autoroute. On pourra passer tranquillement sur le 4e pont.
La voie de contournement Y4, elle, accuse un retard. Toutefois, elle sera aussi ouverte à la circulation, a indiqué Robert Begremombe, qui a tenu à lancer un appel aux usagers.
Au niveau de la voie de contournement, à partir du milieu de la semaine prochaine, on pourra rallier directement la route de Benjervine au stade de Bempe pour permettre à tous ceux qui voudront aller regarder les matchs de le faire. Mais nous recommandons la prudence parce que le chantier n'est pas encore terminé. Nous précisons que la voie de contournement ne faisait pas partie des travaux exigés pour la CAN, mais le président de la République a tenu à offrir aux Ivoiriens des facilités en matière de circulation, ce qui sera fait à partir du milieu de la semaine prochaine.
Une période de gratuité sera observée à l'ouverture du 4e pont, a fait remarquer le chef du gouvernement ivoirien.
Et dans le contexte de la CAN 2023, le ministère du Tourisme et des Loisirs a organisé la première édition du Forum du Tourisme et des Loisirs le vendredi 29 décembre 2023 à Cocody. Réunissant l'ensemble des opérateurs du secteur, ce forum visait à mieux les outiller en termes de prestations à offrir pendant la compétition. Didier Blé.
Le tourisme et les loisirs ne sont pas de simples industries, ce sont également des maillons forts qui peuvent transformer notre communauté. Jean-Marie Kouakou, directeur du cabinet du ministre du Tourisme et président du comité d'organisation.
Les objectifs du forum sont clairement définis. Donner des orientations aux opérateurs sur les dispositions à prendre en vue de leur participation optimale à l'animation pendant la CAN. Présenter les offres de service des opérateurs à déployer pendant la CAN.
À travers la première édition de ce forum et pour le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, l'idée est de préparer le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs à recevoir les touristes. Il s'agit à travers cette rencontre de rendre la destination Côte d'Ivoire plus attrayante.
Il fallait inventer un forum parce que nous avons signé beaucoup de conventions, nous avons fait beaucoup de rencontres et nous avons créé des conditions qui permettent aujourd'hui à notre secteur d'arriver à un niveau de réalisation pour que ce secteur puisse aider le pays à aller de l'avant.
La CAN est une formidable aubaine à saisir, Siandou Fofana.
Avant Covid, on était à autour de 2 millions et quelques de visiteurs à l'international. Grâce au sport, on va accueillir l'équivalent des visiteurs internationaux que nous réalisons en un an, en un mois. Si ce n'est pas le sport, quel est le secteur qui peut nous donner cette possibilité?
200 participants, une cinquantaine de stands, des partenaires financiers. Ce forum, notons-le, a permis de procéder à des signatures de conventions sur la qualité et l'usage du Made in Côte d'Ivoire dans les établissements hôteliers.
Bien après la CAN, la ville d'Abidjan va abriter du 20 au 24 mai prochain une expérience qui se veut unique en matière de formation dans le secteur de la construction, depuis la production industrielle jusqu'à la mise en œuvre sur les chantiers. C'est à l'initiative de la Confédération des PME-PMI du bâtiment et des travaux publics. Les détails avec Mata Touré.
Ce forum urbanique 2024 s'impose comme une occasion unique pour les professionnels du secteur de la construction d'acquérir des connaissances approfondies et de bénéficier des conseils d'experts et d'explorer surtout les dernières tendances. Une initiative qui se veut une approche plus complète de l'enseignement et de la formation dans le domaine de la construction. Sera doté le président de la Confédération des PME-PMI du BTP.
Ce forum qui n'est non seulement un forum commercial, parce que des gens viendront vendre leurs matériaux de construction. C'est un forum aussi qui les forme avec les spécialistes qui viendront faire leurs démonstrations quand il s'agit de la construction.
La thématique de ce forum tourne autour de la problématique des effondrements des bâtiments en Côte d'Ivoire et de savoir surtout comment le numérique et le digital peuvent aider à résorber ce problème. C'est Ijoas de Ecobiz Group et partenaire dans l'organisation de ce forum.
Il y aura un échange, un regard croisé des experts qui vont partager cela pour qu'il y ait une sorte de fertilisation des échanges qui vont aider éventuellement s'il y a des choses qu'on ignore ou qu'on ne sait pas bien faire, qu'on puisse récupérer ce savoir-faire et améliorer les conditions de vie en Côte d'Ivoire. En matière de construction, il y a des appareils électroniques qui permettent d'avoir des précisions dans le calcul, dans la mesure des distances, ce qui fait qu'on peut éviter beaucoup d'erreurs.
Un forum qui se tiendra du 20 au 22 mai prochain à la Questab, à Abidjan.
Faisons un petit tour dans nos régions. Dans le Ifou, la dernière réunion du conseil municipal de Daoukro s'est tenue le mercredi 27 décembre dernier à la salle de mariage Tanoukouadio-Joseph de la mairie. Au sortir de celle-ci, la nouvelle équipe municipale envisage d'engager des démarches auprès de la direction des impôts pour qu'elle l'autorise à augmenter le nombre de ses agents pour optimiser les recouvrements de taxes qui jusque-là sont restés inexploités. À Daoukro pour Radio de la Paix, François Kra.
Le premier adjoint au maire revient sur le sens de la démarche. Conan Evariste.
Il faut que nos recettes respectent un peu la taille de la commune. Donc pour que ça puisse respecter la taille de la commune, il faut qu'on ait le personnel pour faire le travail.
Pour sa part, le sous-préfet de Daoukro, Aboubakari Koné, exhorte les populations à cultiver l'esprit de civisme fiscal pour soutenir les projets d'investissement du conseil municipal.
Nous devons nous tous sensibiliser nos populations à l'effet de s'approprier la culture du paiement des taxes. Parce que c'est sur les taxes que la mairie fait des programmations au profit de la population.
En même temps, le représentant du préfet de Daoukro invite les conseils municipaux à participer assidûment aux réunions du conseil municipal sous peine de sanctions. Abou Bakari Koné.
Il y a des dispositions qui sont prises et qui sont connues. Donc il a demandé que je puisse rappeler ça au maire, de rendre compte à la tutelle des absences répétées non justifiées des conseils municipaux aux sessions du conseil municipal.
La commission économique, financière et domaniale a fait remarquer à cette occasion qu'il n'y a pas de recettes perçues par la mairie sur les exploitations minières dans la commune. Elle demande donc à la municipalité d'entreprendre des démarches auprès des autorités en charge de la gestion de ce secteur pour remédier à la situation. Le budget primitif de l'exercice 2024 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 616 441 000 francs CFA. François Kra, Daoukro, Radio de la Paix.
D'une région à l'autre dans le Tonkpi, le canton Kaleux, situé dans le département de Danané, vient de procéder à l'intronisation de son chef en la personne de Yo Gomé Germain, après un an de report lié à l'opposition de certains prétendants au poste. Un point d'accord a été trouvé grâce à la médiation du chef suprême de la chefferie traditionnelle du Tonkpi, Guy Pascal, et du président régional, Albert Mabri-Touakus. Le point avec Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkpi.
C'est dans un dénouement total que la porte-parole du comité d'organisation a fait cette annonce à l'assistance.
L'événement qui nous réunit, c'est la paix, la cohésion et du développement de la région du Tonkpi. Voici enfin arrivé ce jour tant attendu, l'intronisation de notre chef Yeur Gomé Germain. Félicitations papa. Va et représente dignement les 54 villages du canton Calais auprès de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de la Côte d'Ivoire.
Une cérémonie qui a tout son sens, selon le président du conseil régional du Tonkpi, Albert Mabritouakus.
Nous partons d'ici satisfaits. On va l'accompagner, évidemment. Et nous, ce que nous avons arrêté au niveau du conseil régional pour le nouveau mandat, c'est de mettre en place un organe qu'on appelle comité régional de développement avec la participation de la chefferie qui vont être avec nous dans l'orientation du développement, dans l'utilisation des moyens que le président de la République et le gouvernement mettent à notre disposition. Et donc, ils seront nos conseils et on n'entreprendra rien sans leur avis favorable. Je crois que c'est ce que nous allons faire.
Ce participant en fin des rencontres.
C'est le message de l'unité, de la cohésion que j'ai lancé à l'endroit des chefs de tribu, des chefs de village, des chefs de communauté. C'est un honneur pour ce village d'habiter les siècles de la chefferie cantonale. Je demande un appel à tous les jeunes de se mettre au travail et d'être des modèles, de faire en sorte que vraiment ce village soit une ville de référence, qui soit vraiment des soutiens pour le chef qui est donc ici investi aujourd'hui.
Rappelons que la présence du ministère de l'Intérieur, représentée par le corps préfectoral, était effective. Stéphane Adams, Danané, Radio de la Paix.
Hors de la Côte d'Ivoire, l'ancien président sierra-léonais Ernest Bai Koroma, qui a dirigé le pays de 2007 à 2018, a été inculpé hier mercredi pour son rôle présumé dans les événements du 26 novembre, qualifié de tentative de coup d'État par le gouvernement. L'ancien président est inculpé de 4 infractions, dont trahison et dissimulation de trahison, a indiqué un communiqué du gouvernement signé par le ministre de l'Information, Thierry Norba. Aux premières heures du 26 novembre, des hommes ont attaqué une armurerie militaire, 2 autres casernes, 2 prisons et 2 postes de police affrontant les forces de sécurité, les armes à la main. Les combats ont fait 21 morts, selon le ministre de l'Information. Retour en Côte d'Ivoire avec Jean-Mélène Bitti pour la revue des titres des journaux parus ce jour. Bonjour Jean-Mélène.
Bonjour Amani, bonjour à tous. Le rapport de la Cour des comptes, l'ouverture prochaine du 4e pont et de la Y4, la sortie de Stéphane Kipré et la conférence de presse du président du Synapsi, Kone Moussa, sur la commercialisation du cacao font la une de vos journaux de ce jour. Le dernier rapport de la Cour des comptes est abondamment repris dans les journaux de ce jeudi 4 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Et à ce propos, le Nouveau Réveil ne porte pas des gants en écrivant « Rapport sur l'exécution du budget 2022 », la Cour des comptes met à nu la malgouvernance du régime RHDP. Le sursaut lui aussi met en titre « Scandale après l'affaire de trafic des passeports, l'argent des timbres, des CNI et des passeports délivrés introuvables ». Toujours dans la même veine, le Jour Plus lui annonce que la Cour des comptes fait des révélations troublantes sur la gestion du CHU de Trècheville. Disparition récurrente des fonds publics, la voix originale prévient « Ivoiriens, on bouffe votre argent cadeau ». Dernière heure monde citant le rapport sur l'audit de performance des programmes de 2022 indique la Cour des comptes accable la gouvernance de Ouattara. Génération Nouvelle lui s'interroge, rapport de la Cour des comptes qui mange l'argent des Ivoiriens. Pour terminer sur ce sujet, on peut lire dans l'Inter, recouvrement des droits de timbre sur la CENI, passeport et carte de séjour, la Cour des comptes dévoile de grosses anomalies. L'ouverture du 4e pont et de la voie de contournement Y4 est en bonne place à la une de vos journaux de ce jour. À ce sujet, Fraternité Matin et Le Patriote titre « Infrastructure routière Y4 et le 4e pont ouvert dans une semaine ». Sur le même sujet, le CEO ivoirien met en manchette « Voie Y4 et pont de Yopougon, Beugremombé annonce l'ouverture prochaine à la circulation la semaine prochaine. Au matin de renchérir, après le pont HKB et le 5e pont, Ouattara offre la Y4 et le 4e pont aux Ivoiriens. Infrastructure routière Y4 et le 4e pont, les dernières retouches avant la livraison, fait savoir le journal L'Expression. Que disent certains journaux sur la dernière sortie de Stéphane Kipré, cadre du PPACI ? À ce propos, on peut lire à la une du quotidien quotidien d'Abidjan. Interview exclusive. Stéphane Kipré à cœur ouvert. Je suis venu servir une cause et un chef. Sur le même sujet, soir info titre, situation politique présidentielle 2025. PPACI, Stéphane Kipré, il importe de sortir des débats inutiles qui risquent de nous diviser. Le matin lui annonce que Stéphane Kipré se révolte et règle ses comptes. Le président du SINAPSI, syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, Kone Moussa, a fait une sortie sur la commercialisation du cacao et cette sortie est à la une des journaux de ce jeudi. Soir Info annonce en conférence de presse hier, le SINAPSI demande l'augmentation du prix du kilogramme de cacao. Dans le journal Le Sursaut, Kone Moussa fait savoir que le gouvernement a échoué dans sa politique vis-à-vis des producteurs de cacao. À l'inter de mettre à sa une campagne de commercialisation du cacao, Kone Moussa prévient le problème de la mévente demeure. Voici les titres à la une de vos journaux de ce jour. Merci à vos bacs à journaux et bonne lecture.
Jean-Mélène Bitti à l'instant, merci à vous et on vous retrouve dans le journal de 8h pour une autre revue des titres de la presse ivoirienne de ce jour. Dernier temps fort de ce journal, l'invité de la rédaction. Depuis le 1er janvier 2024, le prix de l'électricité a connu une hausse de 10% à l'ensemble des abonnés. Environ 4 millions de personnes, a annoncé le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Koulibaly, le mardi 26 décembre 2023, lors d'une conférence de presse à son cabinet. Quels sont les facteurs à l'origine de cette hausse et que faire pour réduire son impact sur le quotidien des 4 millions d'abonnés concernés par cette mesure? Réponse à ses préoccupations avec Serge Parfait Dioman, expert international en industrie pétrolière et énergie. Il est interrogé par Jean-Claude Mabéa.
Bonjour Serge Parfait Dioman, vous êtes un expert international en pétrole et énergie. Un second ajustement des tarifs de l'électricité à compter du 1er janvier 2024. Quel commentaire faites-vous de cette décision du gouvernement ivoirien?
Au regard de certains facteurs exogènes qui ont sérieusement affecté le secteur de l'énergie électrique en Côte d'Ivoire, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Sangafoa, a annoncé un ajustement de l'ordre de 10%. Ben, il faut bien comprendre que c'est une disposition tactique normale, c'est une routine et surtout une action nécessaire chaque fois qu'un pays ou un secteur stratégique d'un pays se trouve dans un déficit opérationnel. En l'occurrence, ici, il s'agit d'un déséquilibre opérationnel financier.
Comment arrive-t-on à avoir un tel déséquilibre et quel pourrait en être les conséquences?
Dans le domaine de l'énergie électrique, on parle de déséquilibre opérationnel financier. Quand le prix de revient du kilowattheure est supérieur au prix d'achat par le consommateur, ça veut dire en fait que le consommateur achète le kilowattheure qui lui est livré à un prix qui est inférieur au prix auquel il aurait dû l'acheter normalement en considération de toutes les dépenses qui sont faites pour obtenir un prix de revient. C'est donc la situation que vit la Côte d'Ivoire en ce moment où nous avons un kilowattheure qui est acheté par le consommateur à 79 francs CFA alors que le prix de revient est en moyenne de 89 francs CFA. Dans toute la sous-région, lorsqu'on compare, on se rend compte que beaucoup de pays, enfin la majorité, sont au-delà des 100 francs CFA le kilowattheure. Donc en tout état de cause, la Côte d'Ivoire est le pays qui vend son kilowattheure le moins cher disponible pour la population.
Serge Parfait Dioman, quelles pourraient donc être les causes de cette nouvelle hausse de tarifs de l'électricité?
Dans le cas de la Côte d'Ivoire, il peut en avoir eu dans le passé, peut-être qu'il en aura dans le futur, mais dans le cas présent, cela est dû à plusieurs facteurs. Donc les plus marquants, il n'y a pas de facteur endogène particulier, mais c'est vraiment le facteur exogène. Nous avons par exemple la crise russo-ukrainienne qui est vraiment fort impactante en plusieurs aspects. On peut citer juste deux, mais il y en a plusieurs aspects. Par exemple, l'on sait bien que la production d'énergie électrique dans divers pays d'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire aussi, se fait en partie par du gaz naturel. Et le gaz naturel est aujourd'hui en flambée, très grande flambée sur les places de marché internationales, du fait que la Russie, qui est le deuxième producteur mondial de gaz naturel derrière les États-Unis, se trouve aujourd'hui dans une situation conflictuelle dont l'issue est à date indéterminée. En un mot donc, le gaz naturel s'achète aujourd'hui à un prix nettement très élevé décalé par rapport à ces tarifs habituels des temps normaux. Le deuxième aspect lié à la crise russo-ukrainienne est aujourd'hui la cherté. La cherté des équipements et des ouvrages qui sont utilisés dans la chaîne de production et de transport et distribution de l'énergie électrique. Nous savons bien que l'Afrique ne produit quasiment pas ces genres d'équipements dont nous avons besoin. Et donc, lorsque les pays producteurs sont affectés par la crise russo-ukrainienne et que les factures énergétiques grimpent, ce sont des factures qui répercutent directement ces équipements qu'ils nous vendent. Et nous avons besoin de ces équipements pour entretenir notre réseau électrique. En bout de chaîne, donc, tout cela nous est répercuté. Un autre facteur exogène est la crise du coronavirus que nous avons vécu. C'est une crise qui a imposé au monde entier un embargo, où il y avait impossibilité de disposer de pièces d'échange, d'équipements pour faire la maintenance correcte des usines, y compris les réseaux électriques des pays. Après cette crise donc, tous les pays ont lancé des commandes, ça a affolé les marchés, les prix ont grimpé et ne sont plus redescendus. Et tout le monde paye le prix cher aujourd'hui.
Et quelles propositions pouvez-vous faire aux décideurs et aussi aux consommateurs pour réduire l'impact de cet ajustement des tarifs de l'électricité sur leur quotidien?
Lorsque l'on arrive à une telle situation, il est bon aussi de voir ce qu'on peut faire à son niveau personnel. Donc à l'endroit de mes concitoyens ivoiriens, ivoiriennes, le message est simple, hein, voir comment réduire ses poches de dépenses énergétiques. Entre autres donc, réduire le gaspillage énergétique, voir partout où est-ce qu'on peut faire de l'économie d'énergie électrique, c'est déjà une bonne solution. Et ensuite, voir aussi comment arriver, avec les moyens qu'on a, à répondre favorablement à cette sollicitation du gouvernement qui demande une part contributive à chacun. Cela est nécessaire pour préserver nos acquis, les acquis du patrimoine énergétique ivoirien, assurer sa maintenance de façon correcte et nous projeter dans l'avenir en développant d'autres ressources énergétiques, notamment le renouvelable.
Serge Parfait Diomane, je rappelle que vous êtes un expert international en pétrole et énergie. Merci pour cet entretien et à très bientôt sur Radio de la.
Relativement à la question de l'augmentation du prix de l'électricité, nous recevions les éclairages de Serge Parfait Diomane, l'invité de la rédaction. Et c'est ici que nous passons au rappel des titres. Infrastructure routière, la voie de contournement d'Abidjan, Y4 et le quatrième pont étaient dans l'agenda de visite du Premier ministre hier mercredi. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Et puis dans l'actualité ouest-africaine, l'ex-président sierra-léonais Ernest Bahi Koroma, inculpé pour son implication présumée dans les événements du 26 novembre 2023 dans le pays. Fin de ce journal, une autre édition à 8h.